Le Rwanda a l'habitude des phases électorales, ce ne sera pas la première et malheureusement probablement pas la dernière. Tout le monde le sait, le pouvoir le sait, la communauté internationale le sait et les Rwandais le savent. C'est un constat des faits. Les partis d'opposition, par exemple, n'ont pas été autorisés à participer à l'élection présidentielle. Le président Kagame n'a pas de véritable opposition et sera réélu avec une majorité écrasante des voix. Je pense que le taux de participation sera extrêmement élevé, même si la participation n'est pas obligatoire au Rwanda. On fait bien comprendre aux Rwandais qu'ils sont bien obligés d'aller voter et que ceux qui ne votent pas sont des opposants. Donc je m'attends à des taux de participation de l'ordre de 90%. Mais cela ne veut pas dire évidemment que ces électeurs se sentent vraiment concernés par ces élections, parce qu'eux aussi savent très bien que les dés sont pipés et que leur vote en réalité ne vaut rien.
Victoire Ingabire, une opposante rwandaise sous contrôle judiciaire, a dénoncé cette campagne et a déclaré que le pays était au bord du chaos.
Je pense que c'est un peu exagéré, mais il est vrai que le Rwanda est moins stable aujourd'hui qu'il ne l'était il y a par exemple un an. Il y a eu des meurtres politiques, notamment du vice-président d'un des véritables partis d'opposition, un journaliste qui avait dénoncé certaines pratiques du pouvoir. Tout cela montre bien que le pays est en effervescence, en ébullition, et je pense que ce qui contribue surtout à cette instabilité récente, c'est qu'on observe aujourd'hui des frictions, des scissions même au sein du pouvoir, au sein du Front patriotique rwandais, et en particulier au sein de l'armée, qui reste toujours la base du pouvoir rwandais. Des scissions qui ne vont pas disparaître, je crois, après les élections.
Les discours de campagne de Paul Kagame sont axés sur la transformation économique du pays et l'unité nationale. Un changement est-il possible alors que le président sortant règne sur le Rwanda depuis 1994 ?
Le régime au pouvoir peut montrer un certain nombre de résultats, notamment dans le domaine économique. Il faut bien dire que le pays a été reconstruit après la catastrophe, le génocide de 1994. En ce qui concerne l'unité nationale, là, je pense qu'on est très loin du compte. C'est une unité qui est imposée par le sommet vers la base. Cette adhésion à l'unité nationale est imposée par des législations qui sont extrêmement répressives. Et cette réconciliation, cette unité nationale n'est pas réelle. L'absence de réconciliation ne se montre pas dans un pays où l'expression de point de vue dissident est interdite, tout simplement. Donc je crois que, alors que le régime peut montrer un certain nombre de résultats en matière de gouvernance technocratique ou bureaucratique, sa gouvernance politique est extrêmement dangereuse et créée ces dernières années de plus en plus ce qu'on appelle une violence structurelle, c'est-à-dire une violence qu'on ne voit pas, qui ne s'exprime pas, mais qui un jour va bien évidemment s'exprimer. C'est ce qui me fait dire que le Rwanda est un volcan sur lequel on essaye de maintenir un couvercle, mais ce couvercle, un jour ou l'autre, va sauter.
Alors justement, selon vous, quelles sont les vraies réformes à faire aujourd'hui au Rwanda ?
Je pense que ça tient en un mot, c'est la démocratisation, c'est l'ouverture du paysage politique, c'est donner aux Rwandais l'occasion de s'exprimer. Mais cette ouverture du champ politique est évidemment extrêmement dangereuse pour le pouvoir en place, parce qu'il sait très bien que dans un champ politique compétitif, où des élections seraient honnêtes et transparentes, il perdra le pouvoir. Et donc je pense que, alors que c'est nécessaire pour l'avenir du pays, je pense que c'est quelque chose que le régime ne veut pas ou ne peut pas envisager.